La loi du plus fort est toujours la meilleure, décrit et résume à peu près l'histoire de l'humanité. Darwin l'a observé chez les espèces animales et en a déduit la sélection naturelle et la survivance du plus apte, le tout étant mû par des forces irrationnelles au gré du hasard. Cette perspective du monde est l'évangile officiel qui est enseigné dans toutes les écoles de France et de Navarre et dans les moindres recoins de la planète. Mais il existe d'autres façons de voir la vie. Le christianisme enseigne que depuis la création, la terre est effectivement un terrain de bataille et bien que les hommes s'entretuent pour un oui ou pour un non, le combat, le vrai combat, se situe à un niveau beaucoup plus élevé. D'un côté, Dieu appelle tous les êtres humains à le servir et obéir à sa parole. Et de l'autre, Satan essaye par tous les moyens de les en dissuader. Il utilise pour cela toute une panoplie de mensonges astucieux et efficaces. Il y en a pour tous les goûts et l'immense majorité des hommes se laisse entraîner et le suit à l'image de l'animal qu'on mène à l'abattoir. Le diable a des émissaires partout, comme dans l'église antique d'Éphèse où ils avaient non seulement réussi à s'infiltrer, mais aussi à occuper des positions clés. Pour les faire choir de leur piédestal, l'apôtre Paul a donné une liste détaillée des qualifications requises pour ceux qui veulent participer à la direction d'une assemblée locale. Maintenant, il repart à la charge contre ses faux frères renégats. Je commence à lire le 4e chapitre de la première épître qu'il écrit à Timothée. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Verset 1. Dans notre société, où la tolérance tous azimuts est depuis les années 60 une idole à la mode, il est plutôt malvenu de dire que les croyances religieuses autres que l'enseignement des Écritures sont fausses. Alors affirmer qu'elles sont démoniaques serait un outrage et vous ferez passer pour un dangereux fanatique. Pourtant, c'est la vérité, et tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus sont appelés à combattre les erreurs propagées par les prophètes de mensonges, que ce soit une secte d'origine chrétienne ou une des grandes religions populaires du monde. Il y a toujours eu et il y aura toujours des propagateurs de fausses doctrines, des faux apôtres et des Judas. Plusieurs années avant qu'il ne rédige cette lettre, Paul avait dit aux dirigeants d'alors de l'église d'Éphèse « Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. » Fin de citation. Que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, il y a bien des passages qui nous mettent en garde contre l'apostasie et les renégats, ceux qui pendant un temps semblent avoir la foi en Jésus-Christ, puis qui disparaissent ou pire, embrassent une autre foi. Un des auteurs du Nouveau Testament écrit « Prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Paul dit donc à Timothée que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi. Le mot grec pour se détourneront signifie quitter, partir de, se retirer, et il est très dur, car il décrit quelqu'un qui fait un choix volontaire après mûre réflexion et en toute connaissance de cause. Il était utilisé pour un départ en voyage, mais quand il est appliqué au domaine spirituel, il expose ceux qui avaient fait une profession de foi qui étaient très proches du salut devant la porte d'entrée, pour ainsi dire, mais qui ont retourné leur veste et sont partis. Jésus décrit ces gens dans une parabole. Je résume le passage. Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il semait, des grains tombèrent sur de la pierre. À peine eurent-ils germé que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. La semence, c'est la parole de Dieu, et la pierre représente ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie, mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Fin de citation. Judas a marché avec Jésus pendant 3 ans. Il le connaissait bien. Il savait ce qu'était le royaume céleste. Et puis, il a délibérément choisi de se détourner de lui pour aller dans l'abîme. L'apostasie dont parle l'apôtre Paul aura lieu, dit-il, dans les derniers jours. Cette époque a commencé avec la première venue de Jésus-Christ. C'est en tout cas ce qu'enseignent les auteurs du Nouveau Testament. Je lis quelques passages. « Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils que Dieu nous a parlé. Jésus est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Christ apparu dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Mes enfants, la dernière heure a commencé. » Paul dit aussi dans ce passage que ceux qui, dans les derniers temps, se détourneront de la foi s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils s'attacheront est au présent, ce qui signifie que cet attachement n'est pas un coup de tête, mais dur et se prolonge dans le temps. En apparence, ils étaient croyants, mais comme ils ne possédaient pas l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas été capables de faire la différence entre la vérité et l'erreur, et ils se sont laissés entraîner par des esprits qui sont dits trompeurs. Le mot grec pour trompeur a donné planète en français. L'idée est la suivante. Comme les astres errent dans l'espace, les démons font errer les hommes loin de la vérité. Les apostats, ceux qui renient la foi des Écritures, ne sont pas victimes de professeurs d'universités renommées ou de leaders religieux charismatiques ou de scientifiques rusés. Ils sont la proie d'esprits mauvais et méchants qui utilisent des personnes comme celles que j'ai citées pour répandre leurs mensonges. Je sais bien que ce n'est pas en disant des choses pareilles que je vais me rendre populaire. Pourtant, il faut bien le dire, toutes les religions, j'ai bien dit toutes, et les sectes issues du christianisme ont été inventées par les démons. C'est souvent assez subtil. Par exemple, les missionnaires d'un groupe que je ne citerai pas enseignent que les textes sacrés c'est très bien, mais incomplet. Qu'à cela ne tienne, ils sont là pour rajouter ce qui manque. Une autre secte très répandue prétend que les versions catholiques et protestantes contiennent des erreurs. Alors ils ont traduit correctement et bien sûr leurs corrections vont dans le même sens que leurs fausses doctrines. Ce que Paul dit ici n'est nouveau ni pour Timothée ni pour les Éphésiens. En effet, alors que l'apôtre était en prison, il avait déjà écrit à cette église leur disant « Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Fin de citation. C'est pourquoi, écrit l'apôtre Jean, « Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. » Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. La vérité avec un V majuscule est que Dieu s'est fait homme et que nul ne peut obtenir le salut d'une autre façon qu'en plaçant son entière confiance en Jésus-Christ et en lui seul, sans rite, sans bonnes œuvres ou quoi que ce soit d'autre. Je continue le texte. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Les fausses doctrines sont d'origine démoniaque et se répandent par le biais de faux apôtres qui promulguent le mensonge. Ils portent un masque afin de pouvoir répandre leur gangrène spirituelle incognito. Ils ont les apparences en leur faveur. Ce sont des personnalités religieuses notoires, pieuses, qui font même du bien autour d'elles, ou des professeurs qui écrivent des livres. Et ils nous méprisent, nous qui faisons une lecture littérale des Écritures, qui croyons que l'Éternel a créé l'univers en 6 jours et que Jésus est la seule voie du salut. Moi, par exemple, je prétends effectivement connaître la vérité, puisque c'est la personne du Christ. Mais ça ne veut pas dire que j'ai réponse à tout, loin s'en faut. En fait, plus je me plonge dans l'étude des textes sacrés et plus je me rends compte que j'ai encore pas mal de questions sans réponse. Paul dit aussi que les prophètes de mensonge ont la conscience marquée au fer rouge. Le mot grec pour marquer a donné cautériser en français. Ce terme médical veut dire brûler des tissus de chair. La conscience de ces faux apôtres est morte. Leur boussole morale ne fonctionnant plus, ils sont insensibles au bien et au mal. Non seulement ils ne savent pas qu'ils sont les sous-fifres du diable, mais ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font en condamnant au jugement éternel ceux qui sont sous leur influence. Je continue le texte. Ces gens-là interdiront le mariage et exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. Verset 3. Paul donne ici un exemple de la fausse doctrine qui était répandue dans l'église d'Éphèse par les faux frères. On aurait pu penser que ce serait un enseignement très blasphématoire, comme le rejet de la Trinité ou de la divinité du Christ ou du salut par la grâce, mais pas du tout. Ce sont des idées qu'on pourrait presque qualifier de secondaires. Si Satan est appelé le malin, ce n'est pas pour rien. Il ne s'introduit pas dans une église comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. La ficelle serait trop grosse et puis ça ferait des ordres. Le diable arrive sur la pointe des pieds en douce. N'importe quel enseignement, même minime, qui est contraire aux Écritures peut servir au démon de point d'entrée puis de levier pour ouvrir davantage la porte. Les faux prophètes disaient que placer sa foi en Jésus-Christ était un bon début, mais que pour être vraiment spirituel et sûr d'être sauvé, il fallait ne pas se marier et ne pas manger certains aliments conformément à la loi de Moïse. La subtilité de cet enseignement trompeur est qu'il contient un élément de vérité. Il n'y a en effet, dans certaines circonstances, aucun mal à ne pas se marier, car comme le dit Paul ailleurs, celui qui épouse sa fiancée fait bien et celui qui ne se marie pas fera encore mieux. De plus, c'est également bien de jeûner, de s'abstenir d'aliments, surtout si c'est pour se consacrer à la prière. Mais les faux apôtres voulaient imposer ces comportements particuliers parce que, disaient-ils, ils étaient indispensables pour obtenir la vie éternelle. Or ça, c'est un gros mensonge bas de gamme. Les Éphésiens avaient probablement été influencés par la façon de vivre des Esséniens, une secte juive particulièrement légaliste. À l'époque du Christ, elle avait fondé un peu partout des colonies, des communautés d'hommes qui se vouaient à l'ascétisme. Ils étaient nombreux dans la région d'En-Gedi, à 45 km de Jérusalem, sur la côte occidentale de la mer Morte. Ce sont les Esséniens ou un groupe similaire qui possédaient les fameux manuscrits connus sous le nom de « rouleaux de la mer morte ». Quoi qu'il en soit, ces sectes juives prônaient l'observation rigoureuse de la loi de Moïse dans tous les détails de la vie ainsi que le renoncement à satisfaire les besoins physiques et leur moralité était très élevée. Ils n'interdisaient pas totalement le mariage, mais la plupart d'entre eux s'en abstenaient. Il est également probable que les Éphésiens avaient été influencés par la philosophie dualiste grecque qui enseignait que tout ce qui est matière est mal et le spirituel, c'est bien. Le mariage et les aliments faisant partie du monde physique, il fallait s'en passer autant que possible. Au second siècle, ces croyances donnèrent naissance au gnosticisme, une hérésie qui persista et resta une menace pour l'Église pendant plusieurs siècles. Depuis la nuit des temps, les hommes sont religieux. De l'animisme primitif aux grandes religions sophistiquées, ils ont toujours privilégié les bonnes œuvres, les rites et le renoncement à soi. Au deuxième siècle de notre ère, des multitudes de soi-disant chrétiens considéraient que se marier, manger de la viande ou boire du vin était mal faire, ce qui conduisait les responsables d'église à les excommunier. Il faut dire aussi que les abus faisaient sensation et valaient bien les effets spéciaux de nos films d'action. Un ermite devint célèbre parce qu'il ne se lavait jamais, ni ses vêtements. Il devint si crasseux que lorsqu'il marchait, de la vermine tombait de ses haillons et de son corps infect. Sa devise était « un corps propre signifie nécessairement une âme sale. La vanité de sa personne est certes une faute, tout comme les excès du manger et du boire, mais la pratique de l'ascétisme religieux dans le but d'atteindre un certain niveau de pureté spirituelle est une hérésie qui sort tout droit des antres de l'enfer. Dans une autre épître, Paul s'insurge contre toutes les interdictions de ce genre, qu'elles soient liées aux aliments ou à des rites. L'erreur fondamentale des faux apôtres est qu'ils rejettent la révélation des Écritures. Ils refusent d'accepter que tout ce que Dieu a créé est bon. Pourtant, il est écrit que le sixième jour, après avoir créé le monde, Dieu était très satisfait. Je lis le passage. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Si Dieu a créé les aliments, le mariage et tout le reste, c'est pour le bonheur des hommes. Je continue le texte. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant. Verset 4. Quand l'apôtre dit que rien n'est à rejeter, il parle en termes généraux car certains d'entre nous sont allergiques à une chose ou à une autre, à certains fruits ou le lait ou que sais-je encore. Ou bien, on préfère s'abstenir de certains aliments parce que notre organisme ne les tolère pas. Quand j'étais enfant, j'aimais un peu trop les poireaux en vinaigrette et puis un jour j'en ai trop mangé juste avant un voyage en voiture. Passons sur les détails. Mais depuis, je dirais que ce n'est plus mon mets préféré. En certains endroits, les gens apprécient des insectes vivants ou frits. Je ne sais pas si personnellement je pourrais rendre grâce à Dieu de gaieté de cœur si on me servait des gros vers blancs ou des hannetons grillés en apéritif. En remerciant Dieu, les croyants l'honorent et réalisent ainsi l'objectif qu'il voulait atteindre lorsqu'il a créé toutes les bonnes choses qu'il nous donne. La doxologie à la fin de l'Épître aux Romains résume cette perspective. Je la cite. « En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. » Je continue le texte. « Car tout ce que Dieu a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière. » Verset 5. Le mot « saint » signifie être mis à part ou de côté pour Dieu. Toutes les bonnes choses que je reçois de Dieu, et en particulier les aliments, sont rendues saints d'abord par la prière. Il s'agit de l'expression de sa gratitude envers le Créateur. Le chien qui se jette sur un morceau de viande et l'engloutit tout rond ne remercie personne. Curieusement, la plupart des gens font comme lui. En second lieu, les aliments sont rendus saints, dit Paul, par la parole de Dieu. Dans les épîtres pastorales, il s'agit du message du salut. Ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ parviennent à la connaissance de la vérité et sont délivrés des exigences de la loi de Moïse et en particulier des règles alimentaires. La venue de Jésus a tout changé. Il a lui-même déclaré « De tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. » Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre et est évacué par les voies naturelles. Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Fin de citation. Le problème alimentaire revient plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Paul traite chaque cas de façon un peu différente selon le contexte, mais il invite chacun à ne pas imposer ses vues aux autres et à ne pas juger ceux qui ont une pratique différente. Les règles alimentaires que l'Éternel avait données aux Israélites étaient temporaires et destinées d'une part à les séparer de l'influence malfaisante des nations païennes et d'autre part à leur apprendre à distinguer entre ce qui est pur et impur. Une fois cette connaissance acquise au sujet des aliments, elle devait ensuite s'étendre au domaine moral et spirituel. Les faux apôtres qui voulaient ajouter à la foi en Jésus-Christ des interdictions en imposant le célibat aux croyants et en les obligeant à s'abstenir de certains aliments, cherchaient à instaurer un système légaliste par lequel l'homme est sauvé par ses actes, ce qui revient à rejeter l'œuvre du Christ. Les croyants glorifient donc le Créateur lorsqu'ils reconnaissent que, d'une part, la bonne nouvelle a aboli la partie rituelle de la loi de Moïse, et d'autre part, tout ce qui vient de Dieu est bon et ils lui rendent grâce. L'apostasie est un danger qui guette constamment l'Église. Ceux qui croient en Jésus-Christ peuvent éviter d'être trompés par des faux prophètes en acceptant comme parole de Dieu uniquement l'enseignement contenu dans les textes sacrés. Un des auteurs du Nouveau Testament a écrit « Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine et non par des règles relatives à des aliments. Ces règles n'ont jamais profité à ceux qui les suivent. »